Voilà, on peut réapplaudir la troupe qui vient s'installer à notre plateau radio de BPM. Écoutez, je propose que les élèves commencent. Donc, on aura deux groupes qui vont se succéder au micro. Et évidemment, vous, le public, vous avez la parole, puisque c'est un bord plateau public. Ils vont vous expliquer tout ça pendant qu'on essaye d'avoir les casques qui vont aux bons endroits. Ça va? Ça fonctionne? Ou les câbles sont pris? Parce qu'en fait, tout était caché en coulisses, replié sur soi-même. Voilà, c'est bon?
Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes les élèves de la classe de 5e à horaire aménagé radio du collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières,
avec les artistes de la compagnie BPM qui viennent de jouer ce spectacle pour nous.
Nous leur poserons des questions, mais nous vous donnerons aussi la parole à vous, chers spectateurs, qui êtes restés pour ce moment de discussion, que nous appellerons bord plateau radiophonique.
Un bord plateau radiophonique, c'est une petite émission de radio en direct avec vous. Alors il est important de bien parler dans le micro quand vous souhaiteriez intervenir.
Qu'avez-vous pensé de ce spectacle? Par exemple, si vous deviez exprimer votre ressenti en un mot ou en une expression, que diriez-vous?
Vous pouvez lever la main.
Alors déjà, merci beaucoup. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension sur le mime et le bruitage en général. Et waouh quoi. Non mais, tant d'émotions sur... des choses si simples à faire et tout simple. Non, mais c'est dur, mais waouh! On passait par le rire, par la tristesse, et moi ça m'a. Waouh! J'ai eu ma larme, quoi. À la fin, je me suis dit. Merci. Non, merci beaucoup.
Moi, pour être 100% honnête, quand j'ai vu l'affiche du spectacle, puisque je suis en spétéal, j'ai fait. Oh, bon. Pas trop envie, finalement. Et bah, ça a été Non, je me rattrape. Attendez, je me rattrape. Mais franchement, j'ai adoré les bruitages, le son, l'histoire. Bah, moi aussi, j'ai eu plus qu'une larme, finalement. Hein. Tout le long, j'étais vide. Mais non, franchement, c'était trop bien. Je vous félicite de m'avoir autant fait changer d'avis. Et bah, en fait, juste là, carrément, vous m'avez fait aimer le mime. Parce que je pensais pas possible. Donc bravo, franchement.
Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres personnes?
Personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au thème en fait du spectacle. Mais c'est pas une peur, mais j'avais cette peur que ça soit beaucoup trop triste et que du coup on soit pas assez dans l'histoire. Mais au final, vous avez très bien fait le mélange entre rire et les moments très touchants. Et j'ai adoré, franchement, c'était magnifique. Les bruitages, c'était impressionnant. Franchement, bravo à vous et merci du coup pour cette pièce. Et voilà, merci tout simplement.
Merci beaucoup. Avant de vous redonner la parole, cher public, parlons maintenant de la compagnie de théâtre qui vient de jouer pour nous.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir.
Nous venons de vous voir sur scène, mais pouvez-vous... vous présenter maintenant que vous êtes sortie de la mise en scène.
Alors, moi je m'appelle Chloé et je suis comédienne dans le spectacle France.
Moi c'est Paul, je suis aussi comédien dans ce spectacle et j'ai failli tout casser.
Moi je suis Kathleen, je suis aussi comédienne, chanteuse, bruiteuse dans ce spectacle.
Alors moi je suis Samy, et puis tout pareil, comédien, j'ai plus de voix d'ailleurs après ce spectacle, on fait plein de voix, et puis chanteur, et puis du coup bruiteur aussi sur ce spectacle.
Moi c'est Camille, et je suis régisseuse sur ce spectacle.
Et moi je m'appelle Marc Granier, je suis l'auteur et metteur en scène, et maintenant je joue dans ce spectacle, voilà.
Merci, comment vous êtes-vous rencontrés, et où?
Alors, on est tous des copains de promo aussi. On était dans la même école de théâtre. Et donc, on a fait l'école Jacques Lecoq ensemble, qui est une école de théâtre physique qui passe d'abord par un langage corporel avant de passer par le texte. Et donc, on a vu plein de styles de théâtre très créatifs comme ça. Et ça nous a donné envie de continuer à créer ensemble après l'école.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédien?
Oh, qui veut répondre?
Chacun d'entre nous? Enfin, la question s'adresse à tout le monde.
Oui.
Oui, ok. Eh ben, je vais commencer. Allez. C'est... Oh là là, la vache. Parce que j'imaginais pas faire autre chose. et que quelque part c'était le seul endroit où je ne m'ennuyais pas. Voilà.
Moi aussi, pour répondre un petit peu dans la lignée, il y a ça, il y a le fait qu'on soit quand même assez actif. C'est souvent, surtout dans ce type de théâtre où c'est très créatif, où on peut apporter sa créativité aussi. Et aussi tout simplement parce qu'on est beaucoup ensemble, beaucoup en groupe, et comme ça je m'ennuie moins.
Le théâtre est-il votre seul métier ?
Alors que vous aurez pu être garagiste.
On a la chance de pouvoir aujourd'hui faire en sorte que ce soit notre seul métier, mais c'est jamais évident dans les métiers créatifs. Parfois, il faut qu'on fasse plusieurs jobs en même temps, mais nous, on a la chance de faire ça aujourd'hui.
Et puis, on n'a pas les compétences pour être garagiste.
Il vaut mieux pour vos voitures, d'ailleurs. Mais après, c'est jamais exactement juste le métier, en tout cas, je parle pour mon cas, de comédien. Samy vous a donné des ateliers de théâtre, et donc il transmet son savoir, mais c'est aussi un travail de transmission. Parfois, on va intervenir où on ne joue pas, ou juste en regard extérieur à la mise en scène, sur de la musique aussi, parfois. Voilà.
Et Chloé vous a parlé de l'école Jacques Lecoq, et c'est une école dans laquelle on essaye de créer un théâtre universel et de toujours regarder la vie pour l'organiser sur scène. Et dans le cadre de l'école, on a même un exercice qui s'appelle l'enquête. On choisit un sujet qui souvent est un milieu professionnel et on part en immersion pendant une, deux semaines dans ce milieu professionnel, une boucherie, charcuterie, une brasserie, et on va travailler avec les gens parce que le but, c'est de s'intéresser à tout, à la vie en général. Donc le métier de comédien, c'est comme on le voit parfois, je pense. Vous êtes un peu d'accord ?
C'est une grande Absolument. Enquête.
Voilà, on doit s'intéresser un peu à tout. Et pas juste avoir le nez dans les livres de théorie théâtrale. Il faut s'intéresser à tout, aux animaux, aux métiers, aux gens, regarder les gens dans la rue.
Pouvez-vous nous parler de votre compagnie ?
Marc. Ok. La compagnie BPM, comme je l'ai mentionné, mais avant la radio, c'est donc une compagnie qui fait référence au battement par minute musical et le battement par minute du cœur. Et c'est une compagnie qui s'est créée déjà sur la base de notre amitié. C'est déjà ça qui a fait qu'on s'est constitué. On était d'abord copains et on s'est retrouvés et ensuite on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et il s'est retrouvé qu'on était tous du coup liés par un théâtre où le corps et la création est important. Et en plus de ça, ça pour le coup, indépendamment de notre école, on avait tous un rapport avec le son ou la musique, à différents degrés, de façon différente, mais on avait tous cette sensibilité-là. Et donc on s'est dit, tiens, essayons de voir quel théâtre on peut créer si jamais on mélange le mouvement, le corps et le son. Donc là, par exemple, ce spectacle-là, c'était l'idée d'essayer de créer comme un dessin animé, une BD sur scène, où on mélange le mime et le bruitage en direct.
Avez-vous d'autres questions à poser sur le métier de comédien ou nous pouvons passer directement au spectacle ? On passe au spectacle.
Maintenant, venons-en à l'idée du spectacle et ses contenus.
Pourquoi le spectacle s'appelle-t-il France ?
Ah.
Pour toi, ça c'est pour moi. Qui a posé la question ? Pardon, j'ai pas. Ah oui, France. France, c'est un clin d'œil. La première chose, c'est que je voulais que le prénom du personnage sonne un peu étranger, un peu non francophone, pour nous déplacer un peu d'univers, parce que j'aime bien parler de la vie, mais je n'aime pas le naturalisme. Donc je trouve ça bien quand ça nous décale un petit peu. Donc je cherchais un nom qui ne fasse pas francophone. Et donc je cherchais, et j'étais face à ma bibliothèque, et il se trouve que je suis un grand fan de différents auteurs, et notamment de Franz Kafka. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un clin d'œil intéressant, parce que Franz Kafka, il a beaucoup écrit sur le rapport au travail, et il avait notamment une relation complexe avec son père. C'était pas du tout la même situation, mais c'est quand même des choses qui me semblaient intéressantes. Et pour la petite histoire, Franz Kafka, normalement c'est F-R-A-N-Z. J'ai rajouté un T parce que je voulais faire une faute, parce que je voulais pas être trop intello.
Comment avez-vous eu l'idée du spectacle ?
Chloé, c'est pour toi.
Alors, ben, en fait, à la fin de notre école, Marc nous a rassemblés et nous a dit « Bon, ben voilà, on a créé pendant 2 ans ensemble, il faut qu'on continue. » Et nous, on était « Ah oui, super !» Et on fait quoi? Et donc, il s'est dit, bon, ok, j'ai une idée. Il avait déjà écrit des morceaux de texte, des choses comme ça. Et l'idée du... Enfin, il avait déjà l'idée de l'histoire. Et l'idée du style est venue après, justement, avoir traversé tous ces styles très différents à l'école, après avoir fait, je sais pas, une après-midi de théâtre d'objets. Et on avait un petit peu touché au bruitage, mais vraiment pendant quelques minutes. Et on a décidé de s'y lancer, même si on n'avait jamais fait ça avant, parce que ça nous semblait déjà drôle à faire. On aime bien s'amuser sur scène. Et aussi parler à quelque chose de très sensible et de très... c'est quelque chose de très ludique qui est connecté à l'enfance, au dessin animé, des choses comme ça. Et ça nous semblait, ça semblait à Marc déjà très à propos de raconter cette histoire avec la sensorialité. Et nous, ça nous a botté tout de suite.
Combien de temps avez-vous mis pour monter et préparer le spectacle ?
2 jours. Et le deuxième, on y allait mollo.
Ouais, c'était juste l'après-midi. Non, on a mis, je sais plus déjà.
Des siècles.
Alors, bout à bout, parce que c'est parfois un jour de recherche, parfois une semaine entière, après 5 jours de répétition, etc. Mais bout à bout, on pourrait dire 3 mois. 3 mois de présence où on est tous là. Après, Marc, il travaille plus dans son coin. Voilà, mais ça, c'est la nuit.
Après, je pense que, effectivement, je pense que pour nous, toutes et tous, en fait, il y a les temps de répétition, mais arrive un moment où, pour créer un spectacle comme celui-ci, qui est quand même assez atypique, arrive un moment où, en dehors des répétitions, en fait, notre cerveau continue à travailler. Enfin, il y avait des moments où on était en pause, on boit un coup, et en fait, il y a un verre qui heurte une matière, et d'un coup, tout le monde s'arrête et fait « Waouh, quel son incroyable !» Parfois, c'était vrai, parfois, c'était faux, mais arrive un moment où on devenait complètement obsédé par le son, et quelque part, on continue à travailler sans être en répète. Donc, c'est, voilà, il y a le temps effectif, mais pour faire ce genre de truc, il y a aussi... ça finit par envahir un peu toute une vie, quoi.
Dans quel lieu faites-vous tourner ce spectacle ? Comme par exemple dans un opéra ?
Waouh, on aimerait bien être sur une scène d'opéra, mais on n'a jamais fait encore. Mais on est allé dans plein de théâtres différents. Peut-être Camille, tu peux en parler.
Alors, on est allé dans les Alpes, en Suisse aussi. On est allé, hier, on était au Luxembourg. On est allé aussi à Amiens et Saint-Quentin, qui sont pas loin d'ici. Et la semaine prochaine, on est dans le sud-ouest. Voilà, on part à plein d'endroits, mais que des théâtres pour l'instant.
Mais de plein de tailles différentes.
Qu'est-ce que vous voulez provoquer comme émotion dans le public ?
Je vais la prendre, celle-ci. J'entends la question, mais quelque part, c'est pas vraiment à nous de le dire. Parce que évidemment, on essaye de toucher les gens, mais après, chacun fait son parcours avec cette histoire-là, parce qu'il y a des gens à qui ça va parler pour des histoires de filiation, d'autres pour des histoires de perte, d'autres pour... Donc, quelque part, je préfère pas trop formuler « on cherche à provoquer ça ». Je me méfie toujours des spectacles qui partent du principe que... leur spectacle va provoquer ça, comme s'ils savaient de manière certaine, avec presque une forme de mégalomanie, qu'ils ont une emprise sur le public et ils l'amènent exactement où ils veulent. On n'a pas, je crois, du tout cette prétention-là. Évidemment, on essaye de toucher les gens et d'aborder des thèmes qui sont universels, mais je pense que chacun le traverse différemment et c'est bien comme ça.
À vous la parole, cher public. Quelles questions souhaitez-vous poser sur le contenu du spectacle lui-même ?
Comment avez-vous choisi les matières ou les objets pour les bruitages ?
Alors en fait, il y a un truc qui est souvent intéressant pour être créatif, c'est d'avoir des contraintes. Et l'une de nos contraintes qui était liée au thème de l'atelier, c'était d'avoir des objets, un bazar qui venait d'un atelier. Donc on a récupéré des objets qu'on avait un peu dans nos cuisines, dans le garage du père de Marc. Voilà, donc à peu près tout ça, hein, quasiment rien n'a été ajouté. Et à partir de là, on a fait des sons pour des sons dont on avait besoin. On a fait des choses. Et on est aussi parti de sons qu'on avait pour créer du mouvement, en provoquant Paul, en improvisant. Marc se ramenait un matin et nous disait « Bon, ben, ce matin, vous allez faire la plage. » Et donc, avec quoi on peut faire des pas? Qu'est-ce qu'il y a dans une plage? Le bruit du sable, la mouette. La mouette. Voilà, donc...
Elle s'est arrêtée en plein
Donc, il y a un va-et-vient. Parfois, l'objet crée un mouvement et parfois, on cherche quelque chose qui va coller sur le mouvement. Mais c'est un peu le hasard des choses. Voilà. Si l'atelier du père de Marc avait été différent, s'il avait eu une isolation différente, un type de maison différent, le spectacle serait très différent.
Voilà. D'ailleurs, on était très tristes quand la première perceuse nous a lâchés, parce que c'était plus le son premier, quoi.
On a dû faire passer des castings.
Ouais. Ah oui, il y a eu quand même des castings pour quelques clés à molette qui ont été passées.
On s'est pointé dans des castoramas et dans des bricots, oui. Trucs, machin, et on demandait aux vendeurs de tester les clés. Donc on était dans des rayons à taper, les gens passaient à côté de nous, ils comprenaient rien. À 9h du matin, au milieu d'artisans qui étaient pressés, vraiment, des ovnis.
Il y a une fois, oui, on était dans un magasin de bricolage avec Samy, et on cherchait une clé qui faisait une note spécifique. Le problème, c'est que toutes les clés étaient collées à un emballage en carton, en fait. Le carton, et puis il y a le serflex, et puis il y a la clé. Donc impossible de pouvoir la faire sonner. Et on s'est retrouvé à demander à un vendeur, voilà, est-ce que vous avez une clé qui fait un sol dièse, quoi? Le type nous a regardé comme des... Enfin bon, bref. Bon, évidemment, il n'a pas su nous dire, quoi. Voilà.
Par rapport, vous en avez un peu parlé, mais par rapport à vos influences... Et pour la partie, on va dire, plus théâtrale, et pour les bruitages, quelles sont un peu toutes les influences? Et peut-être que vous n'en avez pas eu, non? Voilà.
Je débute et je vous la rends. Ouais. Hein. Je pense que on a eu des influences conscientes ou non, puisque je vais essayer de parler. Je fais dos, mais c'est pas... Voilà. Je pense qu'on est, bon, on est toujours influencé consciemment ou non. Donc ouais, moi, mais entre autres, pour l'objet du bruitage et l'esthétique, mes influences, c'est vraiment Boris Vian, Tati, les triplettes de Belleville, parce que c'est plein d'univers qui mettent le ludisme et le son au centre. Et qui parviennent à parler de choses, ou Duke Ellington par exemple, qui parviennent à parler de choses très vivantes et parfois de drame, quoi, mais avec une forme de légèreté où la vie est toujours présente et où quelque part le drame se mêle aussi avec le dérisoire de la vie, parce que c'est vrai que lorsqu'on vit un drame, bah, malgré tout, on fait toujours la queue à la caisse du supermarché. Et il y a toujours des trucs un peu drôles. Voilà, on avait envie de mélanger ça. Et après, et ensuite je me tais et je laisse la parole à mes comparses, je pense que la dernière influence, c'est celle du collectif. C'est celle de ce qui nous a amusés et on s'est contaminé aussi de nos univers respectifs progressivement. Mais la bagarre du patron, par exemple, c'est un plagiat éhonté, à peine masqué, de Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. Je sais pas si vous voulez du coup. Ah mince. Pardon.
Bonsoir. Je tenais à vous remercier pour ce spectacle qui était extrêmement touchant. Et justement, je me demandais comment faire pour vous, en tant qu'acteur, face à un public qui va réagir, par rapport à cette émotion qui est tellement forte et qu'on compense parfois par un peu de rire, mais parfois le rire universel. Renvoie un intime encore plus fort et plus, comment dire, plein d'émotions potentiellement négatives. Comment vous faites pour le vivre et pour le transmettre sans vous-même vous effondrer sur quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Voilà, c'est ma question.
C'est une galère.
Moi, j'ai juste pour bien comprendre, est-ce que la question porte sur comment nous, lorsqu'on est sur scène, on reçoit le rire du public dans des moments possiblement dramatiques, ou est-ce que c'est comment nous on joue quelque chose qui peut être fort et que nous-mêmes on pourrait traverser?
Comment vous jouez?
Ok. Donc comment on peut aborder ça jour après jour alors que c'est quelque chose d'un peu fort, quoi. Ok, d'accord.
Bonne question. Non. Déjà, il y a, je pense que personnellement, je fais appel parfois à des petits outils techniques pour rester dans les rails de ce que je dois faire. Après, sur chaque représentation est différente. Ouais, c'est un petit peu le dosage entre en fait, là, c'est pas pareil aujourd'hui. Il y a ça qui arrive. Comment moi je peux le supporter et le faire advenir parce que je pense que c'est intéressant. Et en même temps, pas me laisser déstabiliser par ça. Ouais, c'est une recherche qui continuera après cette discussion pour moi en tout cas.
Quand on joue, on n'a pas le temps de rester sur nos propres sentiments très longtemps, notamment nous, en tout cas, derrière au bruitage, etc., parce qu'on est vraiment pris dans une espèce de rivière. Quand la pièce débute, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se dire « Ah oui, ça me... » On ne peut pas avoir du recul sur nos propres émotions, et il faut qu'on avance, il faut qu'on raconte cette histoire, il faut qu'on continue
à l'instant.
Exactement. Et donc, en fait... On ne peut pas vraiment se sortir de l'effort collectif, quoi. Enfin, de ce qui est en train de se passer collectivement. Moi, je suis plus touchée par le lien que j'ai rythmiquement avec mes camarades que par une histoire personnelle. Et le moment, finalement, où là, je suis peut-être un peu plus submergée, c'est à partir du moment où on vient saluer et qu'on commence à recevoir aussi tout ce qui a touché aussi le public. Enfin, là, je sens que ça résonne à ce moment-là aussi. Et c'est un moment où on peut aussi nous-mêmes se relâcher et prendre le temps de ressentir. Mais ce qui ne nous empêche pas de ressentir pendant la pièce, je ne sais pas si c'est très clair.
Moi, je veux bien glisser un truc, mais bon, je parle trop, comme d'hab. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du groupe, en fait. C'est-à-dire qu'on joue des choses qui parfois sont assez fortes, mais effectivement, déjà, on est pris dans un flot, dans une rivière, c'est comme une musicalité, donc quelque part, il faut quand même enchaîner. Et la seconde, c'est que parfois on sent dans des silences, dans des choses, qu'on n'est pas les seuls à être émus, que quelque part cette émotion, elle est aussi partagée par peut-être certaines personnes dans le public, peut-être par certains d'entre nous. Et le fait que cette émotion, elle soit partagée par plusieurs personnes, ça lui enlève son caractère purement psychologique et individuel, et quelque part, ça nous unit plutôt que ça nous isole. Donc ça donne de la force. Parce que, je le rappelle, l'étymologie d'émotion, c'est le mouvement à l'intérieur. Et quelque part, quand on arrive à le sortir et le partager, ça devient une énergie qu'on partage entre nous. Et je crois que c'est ce après quoi on court.
Je crois que chaque jour, la pièce est très très différente parce qu'il y a notre énergie, il y a l'énergie du public. Et le fait que tout ce qu'on fait, ça ne repose que sur nos corps, le corps de Paul beaucoup, donc son énergie du jour. On est une personne un peu différente chaque jour. Nos voix qui sont différentes, notre connerie du jour aussi. Parfois, on a plus envie de rigoler à un moment qu'à un autre. Et donc, la pièce vit d'une manière différente chaque jour. Et on ne dit pas forcément les mêmes choses. Le chat n'a pas la même voix tous les jours. La mouette est plus ou moins heureuse, triste, plus ou moins loin ou proche chaque jour. La taille du plateau d'une scène à l'autre a beaucoup d'influence aussi sur le rythme. Puisque si Paul doit faire 3 pas ou 6, ça ne donne pas la même chose pour vous, ni pour nous. Ça devient potentiellement plus tragique ou plus drôle, selon le rythme. Voilà.
Et après, très concrètement, quand nous, on fait des petits personnages, comme on l'appelle en gromelot, dans le fond sonore de France, et ben, on dit, parfois, on a un texte qu'on respecte au fur et à mesure, qu'on a trouvé en faisant, mais parfois, on improvise différentes phrases, différentes blagues, voilà. Donc oui, c'est probable que ce soir, on ait dit des choses différentes.
Vous utilisez aussi le mime. Comment fonctionne ce langage et comment s'accorde-t-il avec les bruitages?
Et ben, comment fonctionne ce langage? Alors déjà, comment ça s'accorde avec les bruitages? Je vais répondre à ça. C'est vraiment des répétitions hein, assez millimétrées dans un premier temps pour qu'on se mette d'accord sur le nombre de fois où on tape ça, quel rythme et tout ça. Et après, on commence à sentir un peu plus la connexion, on comprend un petit peu comment, l'objet, comment le bruiteur peut faire le son avec l'objet, et du coup, moi, comment je vais pouvoir me déplacer, et inversement, je pense que les bruiteureuses savent comment faire le savent comment je bouge et du coup adaptent leur son. Voilà, c'est un côté d'écoute partagée. Tu veux dire rajouter un truc?
Oui, en fait, ce qui est génial avec le mime, c'est qu'on a besoin de rien d'autre.
Mais oui, c'est pas cher.
et du coup, on est très très libre. Et donc, comment ça fonctionne? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des règles techniques pour essayer de faire voir au public qu'on a un verre dans la main. On ne peut pas bouger la main dans tous les sens. Il faut vraiment réussir à avoir ce qu'on appelle des points fixes pour faire comprendre où sont les choses dans l'espace. Mais sinon, mais tout peut arriver. Et donc, le langage du mime, c'est quelque chose qu'on fait même quand on est enfant, qu'on joue. Ça vient de quelque chose de très naturel, en fait. Et ça parle à l'imaginaire, et c'est pour ça qu'on trouve que c'est extrêmement riche, que ça peut... en effet, quand on parle de mime, généralement, on pense à des choses très vieilles, un peu vieillottes, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous donne l'opportunité de faire voir... Et donc c'est pour ça qu'on a été intéressé par ce langage-là, même si aujourd'hui ça peut paraître intimidant. Nous, on a baigné là-dedans dans notre école et on a pu sentir que c'était quelque chose d'universel et de très touchant.
C'est aussi une façon de vous engager comme public, oui. Aussi. Ça fait une conversation entre performeur et public, ça vous fait travailler aussi.
Oui, quelque part on crée les conditions, mais c'est vous qui faites tout le travail d'imagination.
Nous arrivons au bout de ce temps d'échange. Merci au public d'avoir participé à ce bord plateau radiophonique au théâtre de Charleville-Mézières.
Merci au théâtre, bonne joie. Merci au théâtre de nous avoir fait confiance et de nous avoir accueillis.
Merci particulièrement à toute l'équipe technique qui a accueilli ce plateau radio en plus du spectacle.
Bonne soirée et à bientôt sur radio-leo.fr.